Alors jusqu'au début des années 70, du siècle dernier, l'autonomie telle que nous venons de la définir demeure là, dans toutes sortes de pratiques des luttes de classe, demeure dans les pratiques et dans les théories qui accompagnent la compréhension et les théories qui accompagnent ces pratiques, demeure le projet d'un processus révolutionnaire allant de l'auto-organisation de la classe jusqu'à son affirmation comme classe dominante, dans un processus quasiment avec, bien sûr, la rupture de la révolution, mais cette rupture de la révolution, c'est une transcroissance. Ce qui fait qu'entre, pour reprendre la question du tout début, ce qui fait qu'entre les luttes revendicatives, les luttes quotidiennes et la révolution et même la conception du communisme, il y a un moment de changement, un moment, un saut, mais ce saut n'est pas une rupture. Alors, ce qui permettait cette existence de ce projet de l'autonomie comme projet révolutionnaire, de l'auto-organisation jusqu'à l'affirmation de la classe, c'est durant cette période-là de la contradiction entre proletariat et le capital, l'existence d'une identité ouvrière. Ce qui confirmait, ce qui permettait l'existence de cette identité ouvrière dans la contradiction entre le prolétariat et le capital, c'est que l'on avait une contradiction entre l'existence d'une force de travail de plus en plus sociale et collective à l'intérieur de la reproduction du capital et d'un côté, des formes d'appropriation par le capital de cette force de travail sociale et collective, des formes d'appropriation de cette force de travail de plus en plus sociale et collective à l'intérieur du capital qui apparaissent dans le développement du capital durant cette période comme limitée. Appropriation de cette force sociale et collective de la force de travail. C'est dans le jeu de cette contradiction que peut exister une identité ouvrière. Pour définir concrètement les bases de cette identité ouvrière, c'est tout ce que l'on appelle le néolibéralisme va qualifier ensuite de rigidité. C'est tout ce que, pour définir concrètement cette identité ouvrière et de cette contradiction entre une force de travail sociale et collective qui n'est pas appropriée de façon adéquate par le capital, c'est tout ce qui va être défini ensuite par le néolibéralisme comme rigidité. C'est-à-dire un marché du travail fondé sur le contrat à durée indéterminée, sur le fait qu'on rentre dans telle usine, on va peut-être en changer 2-3 fois au cours de sa vie de travail, mais parfois on reste toute sa vie dans la même usine. C'est toutes les formes du welfare, du welfare state, toutes les formes institutionnelles même d'intégration de la reproduction d'un poste de travail au niveau de l'État. C'est la conception, par exemple, la conception keynésienne du salaire à la fois comme dépense mais aussi comme investissement du côté du capital. C'est le bouclage de l'accumulation globalement sur des aires nationales. C'est même la partition au niveau mondial du cycle du capital en deux aires, dont une qui, au niveau des investissements, des échanges, lui échappe au capital occidental en grande partie. C'est le fait de confiner les zones du tiers-monde dans un rôle bien particulier, soit en gros de fournisseur de matières premières industrielles ou agricoles. En fait, on peut faire la liste de tout ce qui est, comme je disais tout à l'heure, de tout ce que le néolibéralisme va qualifier de rigidité. Et en fait, cette période glorieuse du projet de l'autonomie qui part de l'auto-organisation vers l'affirmation de la classe est liée à l'existence d'une classe ouvrière stable et facilement et bien repérable dans la reproduction du capital. Pour moi, c'est le projet de l'autonomie, donc je qualifie ce projet de l'autonomie à la fois pratique et théorique, qui va de l'auto-organisation à l'affirmation, est lié à cette existence d'une classe ouvrière stable, qui nous donne à la fois le projet de l'autonomie, mais aussi l'existence du mouvement ouvrier. L'objet autonome et auto-organisation et le mouvement ouvrier appartiennent au même monde. L'essentiel, à ce moment-là, début des années 70, contre ce cycle de lutte-là qui culmine à ce moment-là avec l'auto-organisation, avec comme contenu l'auto-organisation et l'autonomie. Ce cycle de lutte culmine dans la fin des années 60, début des années 70, sur ce thème-là et sur ces pratiques-là. Et la restructuration, son contenu principal consiste à briser tout ce qui pouvait définir cette identité ouvrière et tout ce qui pouvait définir cette stabilité de la classe ouvrière. Cette stabilité de la classe ouvrière.
Non, c'est qui veut briser ça ?
La restructuration. Tout ce que, okay. La restructuration comme contre-révolution telle qu'on la définissait au début. Ça consiste en quoi ? À ce qu'il n'y ait plus cette restructuration, à ce qu'il n'y ait plus de point de fixation, de point de cristallisation dans la double reproduction du capital. Quand on parle de double reproduction, c'est à la fois la reproduction de la force de travail telle qu'elle sort toujours sans réserve du processus de production et telle qu'elle va se retrouver face au capital, et d'autre côté, le fait que le surproduit se transforme en plus-value, puis en capital additionnel. Cette double reproduction du capital qui, dans la restructuration, doit se faire sans point de cristallisation, comme on pouvait avoir sur les rigidités du marché du travail, les aires nationales, le welfare state, etc. Ce dont on parle là, c'est toutes les transformations bien connues au niveau du marché du travail, au niveau du marché du travail avec la flexibilité, précarisation, le fait que le chômage n'est plus quelque chose de bien délimité face au fait de travailler, qu'on va alterner des périodes de chômage, des périodes de travail, sans que cette séparation et la rigidité que ça avait auparavant. Ce sont les transformations dans le procès de production. Au niveau du procès de production, les grands bastions ouvriers sont brisés. C'est les délocalisations, l'appel à la sous-traitance, la technique également du flux tendu. Et au niveau de la transformation du surproduit en plus-value et capital additionnel, c'est le fait que n'importe quelle plus-value peut se transformer n'importe où en capital additionnel. C'est-à-dire qu'on est sorti de la reproduction sur les aires nationales, on est sorti de la grande coupure mondiale de la guerre froide, on est sorti du fait de cantonner, de limiter le tiers-monde à un rôle particulier de fournisseur, de main-d'œuvre, de produits agricoles ou de matières premières. En fait, la façon, l'essentiel de cette restructuration, c'est le point dont on est parti, c'est la disparition de cette identité ouvrière et donc d'une classe ouvrière stable sur laquelle était pour moi fondé le projet de l'autonomie, de même que le mouvement ouvrier. Et avec comme conséquence primordiale, que la contradiction entre prolétariat et le capital, se situe au niveau de la reproduction, de la reproduction des classes. Et si la contradiction entre les classes se situe au niveau de leur reproduction, ça nous donne, vu de façon plus immédiate, la situation suivante. Être en contradiction avec le capital, c'est être en contradiction avec sa propre reproduction comme classe, avec sa propre existence comme classe. Le prolétariat ne peut plus faire valoir dans sa contradiction avec le capital ce qu'il est comme quelque chose à libérer, puisque dans sa contradiction avec le capital, c'est lui-même qui est remis en cause. Les deux deviennent immédiatement identiques. On est de façon immédiatement identique en contradiction avec le capital et en contradiction avec sa propre existence comme classe. C'est le point essentiel de la dynamique du cycle de lutte qui s'ouvre à partir du milieu des années 60. Ce qui signifie la difficulté, pas la faillite, mais l'extrême difficulté de continuer à avoir ce projet autonomiste, ce projet de l'autonomie qui allait de l'auto-organisation à l'affirmation de la classe, qui était fondée sur cette identité ouvrière. C'est là où donc on a une mise en crise de cette perspective autonome et de l'auto-organisation. Et si on considère ensuite les luttes dites autonomes ou auto-organisées à partir du milieu des années 70, qu'est-ce qu'on constate de ces luttes-là? C'est que le projet révolutionnaire en est absent. Par exemple, bon, je prendrais par exemple le mouvement des autoconvocations en Italie en 82-83. Grand mouvement auto-organisé, mais alors qui a. C'est quand le gouvernement italien décide de supprimer l'échelle mobile, comme ça se fait en gros au même moment en France. Dans la lutte contre ce projet du gouvernement italien en 82-83, qu'est-ce que l'on constate? Bon, on a un grand mouvement qui est un mouvement qu'on peut qualifier d'autonome, d'auto-organisé, mais quelle est la fraction de la classe en Italie qui est engagée dans ce processus-là? C'est, on s'aperçoit qu'on a affaire aux fractions les plus, ce que je qualifiais tout à l'heure, des plus stables encore à ce moment-là, qui mènent une lutte, qui à ce moment-là qui est une lutte défensive. Alors, comme vous comprenez bien, je dis pas qu'ils ont tort de, parce que c'est défensif ou parce que c'est encore des fractions stables de la corde de le faire. Hein, ce que je constate avec ce mouvement-là, par exemple, c'est une certaine caducité quelque chose de caduque, c'est quelque chose qui n'est plus d'actualité. C'est un exemple. Pour moi, cet exemple, c'est un des premiers, c'est une première manifestation de ce changement de la caducité du projet, de ce que j'appelais le projet de l'autonomie, avec ce mouvement des autoconvocations en Italie. Quelques années après, en France, on a le grand mouvement des coordinations chez les cheminots ou les infirmières en 86. Là aussi, bon, ce n'est plus comme dans le projet autonome, rompre avec toute notre appartenance à la société capitaliste. C'est tout au contraire affirmer ce que l'on est dans la société capitaliste et le défendre. Le corporatisme qui a été énormément reproché à ces coordinations cheminotes en 86 en France, à mon avis, n'était pas une limite du mouvement, mais sa propre raison d'être, sa nature même, ce corporatisme.
Par rapport à la corporatisme et les infirmières,
le corporatisme des coordinations des cheminots en France en 86, ça a été énormément reproché à ces coordinations, en disant c'est une limite, ils devraient faire plus. Je pense bien au contraire qu'elles n'ont pu exister que grâce à ce corporatisme. En fait, si on prend d'autres exemples de luttes qualifiées d'auto-organisées ou autonomes durant cette période de la fin des années 70 ou du début des années 80, qu'on s'aperçoit qu'elles se limitent la plupart du temps à n'être qu'un syndicalisme radical et à accompagner les actions syndicales ou à vouloir déboucher sur la création de nouveaux syndicats. Quand je parle de lutte qualifiée d'auto-organisée ou autonome qui devient du syndicalisme radical, on peut également faire référence au mouvement des assemblées, au mouvement des dockers à Barcelone en 77-78 et les coordinations qui sont créées à partir de Barcelone avec tous les autres ports espagnols et même avec le port de Gênes en Italie. Coordination des dockers qui rapidement aboutit à quoi? La volonté de former un nouveau syndicat permanent. Ça, ce qui est par rapport à l'auto-organisation telle qu'elle est pratiquée et pensée dans les années 60 et au début des années 70, ce qui est tout à fait différent. Qu'est-ce qui se passe pour moi à partir de ce moment-là? C'est que ce qu'on peut encore qualifier de lutte auto-organisée se contente d'entériner l'existence de la classe dans les catégories du capital. L'auto-organisation n'est plus à ce moment-là la perspective, n'est plus la perspective de rien, ou alors d'une perspective qui, comme je le disais au début, est devenue indicible. à partir de la fin des années 70 ou au début des années 80, le grand pouvoir ouvrier, les ouvriers gérant les usines et la société. Perspective qui devient à partir de ce moment-là absolument indicible. Alors, face à ça, les tenants de l'auto-organisation et de l'autonomie ont toujours la réponse « Oui, d'accord, mais c'est pour ceci, c'est pour cela, ce n'est pas la bonne, c'est l'autonomie existante, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne, ça va être mieux la prochaine fois. » En fait, ils ont le même discours que... Formellement, c'est assez drôle, parce que c'est formellement le même discours que les défenseurs de la démocratie qui vous disent toujours que la démocratie existante, c'est pas la vraie, c'est pas la bonne. En fait, ce à côté de quoi, à mon avis, ils passent complètement, c'est que l'auto-organisation est devenue la formalisation d'une limite dans la lutte de classe, qui est le fait d'agir en tant que classe. Alors là, on va y revenir là-dessus, on est sur un point assez compliqué. Alors, j'insiste pour une deuxième fois là-dessus, quand je mène cette critique, c'est pas pour dire ils ont tort de lutter, ou même ils ont tort de lutter de cette façon-là, hein. C'est pas du tout pour ce serait complètement stupide de faire cette critique là. Oui. C'est la deuxième fois que je le dis, mais je préfère que les choses soient claires, que ce soit redit. Ce que je veux dire, c'est que la dynamique des luttes n'est plus là. C'est pas pour dire aux gens vous avez tort de lutter de cette façon là ou d'une autre façon. Hein. Donc le problème, c'est où peut être actuellement si on constate que dans l'auto-organisation et dans le projet de l'autonomie n'existe plus cette dynamique du cycle de lutte actuel et de la capacité de parler de révolution et de communisme, où ça se situe actuellement. Il faut en revenir à la contradiction entre le prolétariat et le capital au niveau de la reproduction des classes dont on parlait tout à l'heure. Donc, être en contradiction avec le capital, c'est immédiatement être en contradiction avec sa propre existence comme classe. À partir de là, pour moi, apparaît dans pas mal de luttes depuis les années 80, un écart, ce que je qualifie d'un écart à l'intérieur du fait d'agir en tant que classe, car le prolétaire ne peut pas faire autrement qu'agir en tant que classe, qu'il est une classe. Donc un écart à l'intérieur de du prolétariat agissant en tant que classe, il y a un écart dans les luttes qui, à mon avis, est repérable à l'intérieur de cette action. Alors, les termes de cet écart. Alors, d'une part, agir en tant que classe, c'est devenu n'avoir pour horizon que les catégories de sa propre reproduction, que les catégories du capital. D'autre part, deuxième point de cet écart, pour la même raison que on agit en tant que classe, on est en contradiction avec sa propre reproduction comme classe. Les deux termes ne sont pas identiques et vont donner des pratiques à l'intérieur des luttes parfois différentes.